Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 7 avril 2007, il fait beau, il fait chaud, vous écoutez la radio, il est midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos jardins de Pâques et dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD en direct du Japon et un peu de télévision, suivi de Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite, de 15h à 17h, c'est un programme dont je n'ai pas sous les yeux, 17h c'est Big Bang, 18h vie d'ordure, c'est du punk, 19h Happy Hour, faites péter les chocolats dans le martini, 20h la Cité Hero Experience, 21h30 Love Love. Bonjour, c'est Xavier avec vous jusqu'à 13h à des pelures. Du sport va arriver en cours d'émission aujourd'hui, comme chaque année depuis environ 12 années. Le premier week-end d'avril du magazine BD est consacré exclusivement en fait à l'actualité du Japon en France cette année. L'an dernier, on avait reçu ici à cette antenne Frédéric Boilet et Aurélia Horita. Cette année, nous sommes allés interviewer deux auteurs lors du festival d'Angoulême. Il y a aussi pas mal de choses qui se passent au niveau économique dans le domaine du manga et plein d'autres choses. Mais en attendant, je vous offre une petite nouveauté. C'est un DJ japonais qui est assez connu dans le milieu de la techno, il s'agit de Ken Ishii. Son nouvel album s'appelle Sunrise Off, vous pouvez déjà l'écouter sur FMR. Et donc ce morceau est en featuring avec Fabrice League, il s'agit de Organized Green. Bonjour et bienvenue, joyeuse Pâques. We'll be right back. Bonjour et bienvenue donc dans le supplément week-end de Radio Éphémère, midi 7 minutes. Il fait beau, il fait chaud, dehors il va faire bon, tant mieux. Nous allons pouvoir en profiter pour chasser les œufs de Pâques. Mais en attendant, les œufs de notre jardin sont bridés puisque donc ça fait quand même c'est le douzième numéro annuel que l'on fait à chaque fois début avril parce que c'est la saison des cerisiers en fleurs, c'est aussi la saison où tout simplement c'est la période des vacances au Japon puis de la rentrée scolaire en même temps la rentrée télévisuelle et de la rentrée en librairie, donc il y a plein de nouvelles séries qui éclosent. Nous on a voulu faire une espèce de parallèle depuis des années, donc voilà. On va parler bien évidemment de la bande dessinée japonaise, de la manga en France. Et il faut dire quand même que l'univers a justement de la BD japonaise en France a énormément changé. Depuis que j'en parle sur cette antenne, depuis la première spéciale en 95, bien des choses ont bougé. Une respectabilité acquise au pays de la bande dessinée franco-belge. Une cash machine qui fait que tous les grands éditeurs ont leur spin-off manga. Et d'ailleurs, suivant les commerçants que l'on appelle à sujet ou les éditeurs, ils disent que ça représente entre 20 et 45% de leur chiffre d'affaires. Presque tous les petits éditeurs de manga mainstream ont été rachetés. Dernière en date, d'ailleurs, ce mois-ci, Pika Édition par Hachette Livre. Non, c'était il y a environ un mois. Mais certains groupes ont préféré lâcher l'affaire, tel J'ai lu, qui quand même avait édité Nicky Larson alias City Hunter, et puis finalement ils ont arrêté au bout de 5-6 ans. On est dans l'ère de la maturité commerciale, mais aussi dans celle de la nouvelle manga, qui au bout de 6 ans finalement s'est installée. On a eu l'an dernier justement pour les 5 ans Frédéric Boilet, qui en est le fondateur, qui a amené la respectabilité, la maturité scénaristique pour une nouvelle génération de dessinateurs comme Vanida. Sacré meilleur manga jamais publié aux États-Unis, joli coup pour une française. Qu'il est loin le temps où les autres auteurs européens y voyaient une menace, où le dernier Astérix maintenant ne fait plus que prêter un sourire. C'était il y a 10 ans quand même les clichés d'une bande dessinée violente, idiote, commerciale et au rabais. Au dernier festival d'Angoulême, le prix du meilleur album est allé à Shigeru Mizuki pour Nonando chez Cornelius. Tout le monde a salué l'œuvre du vieux maître et là-dessus, il n'y avait pas de contestation. Les studios Ghibli, eux, préparent la nouvelle génération de réalisateurs. Gorō Miyazaki, le fils de Hayao, bien sûr, vient de sortir en France son premier long métrage, Les Contes de Terre-Mer. On n'a pas vu, on ne commentera pas encore, mais peut-être que finalement, il y a une nouvelle suite. Samedi 12 mai d'ailleurs, à la médiathèque José Cabanis, aura lieu une table ronde avec des éditeurs de manga. Peut-être l'occasion d'en discuter en public. J'y serai, j'espère que vous y serez, d'ailleurs vous aussi. Accessoirement, puisqu'on parle justement des premiers mangas qui ont amené quelque chose, un regard complètement différent par rapport au manga mainstream qui était arrivé en France, dans le cadre du festival de films Jules Verne Aventure, qui se déroulera du 18 au 24 au Grand Rex, je sais, c'est à Paris, une avant-première du film Amer Béton, qui est d'après la bande dessinée de Taiyo Matsumoto, qui avait connu aussi une adaptation théâtrale. La date de sortie officielle au cinéma est le 2 mai prochain, et 10 ans après une sortie française très confidentielle, puisque les 3 tomes se sont écoulés à 4000 exemplaires. Peut-être est-il temps pour un retirage du magnifique packaging qui à l'époque était édité par Tonkam, et c'était en 97. Et à l'époque, vous vous rendez compte, on a été les seuls Français à l'avoir interviewé, Taiyo Matsumoto. Ici, dans le supplément, dans Indigeste, à l'époque ça s'appelait comme ça, sur Radio Éphémère. Non, il y a une Bruce qui me chante derrière. Oh là là, le vieux truc. Oui, je sais. Toutes les émissions d'ailleurs sont soigneusement archivées dans un endroit que nul ne peut retrouver. Ça, c'est promis, juré. Mais il y a les chroniques et encore le site web d'ailleurs de cette émission. Oula, je vous à peine imaginer le code. On va commencer cette émission spéciale avec une première interview, celle de Keiko Ichiguchi. Keiko Ichiguchi, dont deux albums sont sortis simultanément, une BD one shot et un livre sont sortis simultanément en janvier dernier. Il s'agissait de America dans la collection Made In, l'histoire d'une jeunesse des années 80 auquel elle a fait partie, qui portait ses yeux vers les États-Unis. Oh là là, toute une époque, hein. Et la génération MTV, Madonna, Top Gun et Pepsi, Next Gen. Et d'un autre côté, pourquoi les Japonais ont les yeux bridés? Justement, l'ère du décodage pour la jeunesse actuelle du Japon. C'est dans la collection Kiko chez Kana. Keiko Ichiguchi a donc écrit des articles sur le Japon à destination à l'origine des lecteurs italiens et ça a été compilé pour la France. Cela donne un regard frais, différent, moins touristique que celui de Frédéric Boilet. Le livre est donc une compilation de petites anecdotes qui nous éclairent bien mieux sur la scène fanzina japonaise, le travail du dessinateur, de mangaka et sa condition dans cette industrie, mais aussi son regard vis-à-vis de la famille et de la société, c'est quand même assez cru. Mais aussi sur le mode de vie japonais, quelque chose qu'elle doit souvent expliquer à ses amis italiens. Alors forcément, elle a à la fois une certaine fibre pédagogique, mais reste très agréable à lire. Si enfin les lecteurs de manga comprennent mieux le poids des traditions et l'importance des fêtes dans le Japon moderne, ils découvrent avec surprise que la condition de dessinateur de manga est encore très mal acceptée, que les otaku, stigmatisés par les médias depuis l'apparition de ce phénomène au début des années 80, se sont fondus dans la société, et enfin que le règne de la censure, la télévision et le Japona, que le règne de la censure à la télévision et au cinéma donne le titre à ce livre « Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés ». Keiko Ichiguchi, interviewée par votre serviteur et par Thomas, qui n'est pas présent aujourd'hui, c'était lors du dernier festival d'Angoulême sur le stand de Kana.
J'ai le bonheur de rencontrer Keiko Ichiguchi, qui est la dessinatrice d'America et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés ». Donc je vais me présenter en japonais, mais il est un peu rouillé. Buongiorno.
Buongiorno.
Puisqu'elle vit en Italie. Alors la première question concerne pourquoi elle s'est installée à Milan.
Milano, je n'ai pas Bologna, non, mais
non, c'est à Bologne en fait.
C'est à Bologne, d'accord.
En fait, elle voulait étudier l'italien et son professeur lui a parlé qu'il y avait une bonne école à Bologne et c'est ainsi qu'elle a décidé d'aller à Bologne.
Dans le livre qui vient de sortir donc chez Kana, pourquoi les Japonais ont les yeux bridés, en fait elle explique assez ironiquement dans le livre que le titre en fait se réfère à la tradition japonaise équivalente à cet art ancestral français de s'asseoir le premier samedi du mois devant Canal Plus avec une passoire. Pourquoi lui est venue l'envie d'écrire ce livre et qui n'est pas une manga mais un livre textuel?
Alors en fait au départ ce n'est pas un livre, c'est une série d'articles qu'elle écrivait dans tous les mois dans un journal italien à propos du Japon.
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est le télescopage. Sort en même temps chez Kana America, où on est dans les années 80, où les jeunes de tous les pays rêvent de l'Amérique, l'Amérique de Top Gun, l'Amérique de Madonna. Or, depuis 5-6 ans en France, tous les jeunes rêvent d'aller vivre au Japon. Est-ce qu'elle aurait fait un bouquin à peu près équivalent maintenant?
Si elle l'avait écrit de nos jours.
Oui.
Hi.
Ya, ima wa doko ni sumitai tte iu no wa nai no de, tada kono hon o kaita toki ni wa sugoku yappari.
Elle ne sait pas vraiment maintenant ce qu'elle aurait fait. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, elle était encore lycéenne. Et donc, c'était vraiment l'Amérique, comme vous le disiez.
Est-ce que maintenant qu'elle est installée en Europe, quand elle produit des mangas, est-ce qu'elle songe autant à son lectorat international qu'à son lectorat natif?
Elle ne pense à personne en particulier. S'il y a quelque chose qu'elle veut écrire, c'est ce qu'elle va faire. C'est impulsif. Lorsqu'elle a écrit ce America, donc c'était surtout pour un lectorat japonais, mais étant donné que ça a été traduit en italien et en français, elle ne pense pas qu'elle est à se soucier de son lectorat. Simplement, elle veut faire ce qu'elle veut et elle pense que ça touchera ceux qui le veulent.
Dans Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés, elle raconte un peu, elle parle de la condition des mangaka, assez difficile de travail. Est-ce qu'elle l'envie vraiment l'indépendance des auteurs européens, mais qui est plus aléatoire pour publier un album et avoir des revenus.
すっごく リラックスしてる.
Ils sont vraiment relax. Elle en vit beaucoup, les artistes, par exemple en France, les artistes français, parce que la bande dessinée est beaucoup plus vue comme un art, et les artistes comme des artistes, enfin au sens avec un grand A, par rapport au Japon, et donc elle en vit vraiment leur statut.
Tant qu'on parle d'artistes, nous on a un artiste qui vient de prendre sa retraite en France et ça n'a rien à voir avec la bande dessinée, qui est Zinedine Zidane. On a eu un gros contentieux avec les Italiens suite à l'affaire de Materazzi. Est-ce que ça lui est passé au-dessus ou est-ce que c'est un peu passionné pour le mondial qui vient de s'écouler?
Zidane et Materazzi.
Au départ, elle doit dire que lorsqu'elle a vu la finale, elle se trouvait à Paris. Donc lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, elle n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Et c'est que le lendemain, lorsqu'elle a vu la photo de Zidane dans les journaux, qu'elle a compris, et elle était vraiment triste pour lui. Seulement, mais en Italie, ce qui se passe, c'est que... Alors, il y a la Palazzi qu'elle parle, c'est-à-dire qu'ils utilisent un langage très ordurier lors des matchs, et tous les Italiens pensent que c'est ce qu'a fait Materazzi, mais ils trouvent ça... Enfin, étant donné que c'est quelque chose de commun dans le football italien, ils trouvent ça normal.
Pour en revenir à pourquoi, vous parlez aussi de l'évolution des otaku, de leur apparition dans les années 80 et comment les médias ont voulu en faire un épouvantail, en faire peur, et que, un peu par réflexe, les otaku finalement se sont camouflés dans la société, sauf sur certains détails. Alors je voudrais qu'elle nous dise, qu'est-ce qu'il y a d'otaku, de nous deux, de visible? Ah. Et sur quel détail?
Il y a une atmosphère. Qui fait qu'elle pense que tu es un otaku, mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment propre aux otaku, donc le fait qu'elle ait trouvé que c'est toi l'otaku, elle doit être otaku elle-même.
C'est très japonais comme réponse. Le cliché des Français sur comment ils voient les Japonais, du moins pour le très grand public, c'est que les Japonais, ils sont comme des robots. Et en fait, elle est décrite dans son livre comme étant des gens qui, en dehors du bureau, adorent faire la fête, ont énormément de fêtes traditionnelles, religieuses, ou adorent sortir le soir pour boire. Moi, je voudrais savoir comment elle voit les Italiens quand elle les côtoie.
Avant d'aller vivre en Italie, elle pensait que les Italiens ne faisaient rien. Et simplement, enfin, aimer la vie. Et depuis qu'elle vit en Italie, elle a bien sûr une différente image, c'est-à-dire qu'elle trouve qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils ont beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés à vivre, et que donc cette bonne humeur, enfin cette joie de vivre, c'est une manière pour eux de cacher leurs difficultés de tous les jours.
Maintenant qu'elle vit en Europe depuis pratiquement une dizaine d'années, d'après ce que j'ai compris,
13-14 ans.
Est-ce qu'elle serait intéressée pour faire des séries de mangas, pour proposer à ses éditeurs japonais des séries de mangas avec des personnages européens, avec des préoccupations typiquement européennes?
Étant donné que la vie d'artistes de manga est très difficile, elle n'a plus vraiment envie de faire une grande série de manga. Retourner au Japon et faire une série. En fait, maintenant, elle a vraiment le rythme italien. Et pour l'instant, ce qu'elle fait, c'est un manga de une ou deux pages tous les mois pour les Japonais qui apprennent l'italien, et c'est à la fois en italien et en japonais.
Keiko Ichiguchi, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Grazie mille.
Grazie mille.
Voilà, et donc à la question lequel de nous deux, Thomas ou moi et Totaku, et ben elle m'a immédiatement désigné, je ne sais pas pourquoi, je suis sûr qu'il y a Yangui Souroche. C'est du sport qui a explosé de rire. Rien qu'à y songer. En tout cas, on a été très touchés par sa gentillesse, et un peu triste que pratiquement personne ne se prêtait pour lui faire dédicacer son livre. Ton micro déconne. Tu es sûr qu'il est allumé? Non, il n'est pas allumé. Voilà, là ça marche.
Ah, ça va mieux là ?
Oui, ça va beaucoup mieux.
Bonjour.
Bonjour Duce.
Non, 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 c'était juste pour dire ce dont tu viens de parler et tout, que les Japonais sont des gens très gentils et tout, c'est également un cliché en fait. Hein.
Ah non, 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 c'est au contraire, ils sont très serviables, très polis dans les commerces.
Ouais, mais je peux vous dire. Ça fait bien cliché ça aussi.
Je peux vous dire qu'un client japonais dans un commerce japonais, mais il insulte de tous les noms, quoi. Le serveur ou l'assistante du banquier et tout ça, mais c'est ignoble. Par contre, tu peux témoigner, puisque hier, à ce qui paraît, sur Paris Première, il y avait du film flouté à la japonaise.
Ah, ouais,
ça marche bien, la manière de se brider les yeux.
Ouais, ouais, enfin, c'est un peu poussif quand même. Faut dire ce qui est. Je suis pas tombé sur le bon, à mon avis. Il doit y en avoir d'autres qui doivent être vachement mieux, mais là, quand même, comme hentai, c'était vraiment.
D'accord, voilà. Donc, d'accord, du sport, c'est offert une belle soirée.
Même Christine n'en revenait pas, pour te dire.
D'accord, c'est en famille, hein, ok. On va passer à littéralement autre chose, on va y aller dans les nouveautés. Oui, donc j'ai oublié de redonner la référence des bouquins de Keiko Ichiguchi, America, qui est donc une histoire complète qu'a écrit dans les années 80, c'est dans la collection Made In. Et pourquoi les Japonais ont les yeux bridés ? Eh ben, vous le saurez en lisant donc une suite d'articles qui c'est hilarant, c'est très bon. En même temps, ça fait vraiment découvrir le Japon d'une manière intéressante. C'est dans la collection Kiko chez Kana. Avant que je me fasse couper par la pub, je crois qu'on va enchaîner maintenant, puisqu'il est midi 24 sur la poubelle des radios 89.1 MHz, avec Docteur Koto, excusez-moi, ça va me revenir. Je me remets dans le bain, voilà. Docteur Koto, le deuxième tome donc de cette série vient d'arriver dans la collection Big Kana chez Kana, et scénarisé et dessiné par Takatoshi Yamada. Et on suit donc l'histoire du docteur Goto, mais sauf que les habitants locaux l'appellent Koto, qui est arrivé sur une île isolée du sud de l'archipel japonais. Et donc Koto s'occupe du dispensaire pour une communauté de pêcheurs, plutôt traditionnaliste, style médecine traditionnelle et tout le reste, et carrément hostile au progrès. Le docteur Koto est incroyablement doué, mais le fait qu'il se soit installé sur l'île de Koshiki éveille des soupçons des habitants. Que fait-il dans une île aussi retirée alors qu'il a travaillé pour un grand hôpital universitaire de Tokyo ? C'est l'arrivée d'un journaliste de presse à sensation qui va révéler un côté sombre de l'histoire de Koto, la mort d'une de ses patientes. Et le journaliste en question, c'est le grand frère de la disparue, et il a décidé de ruiner sa réputation de médecin. Comme s'il avait besoin de ça, les habitants sont très méfiants envers lui, au point que l'infirmière Ayaka, native de l'île, est obligée de s'interposer entre eux. C'est un milieu des séries hospitalières comme Urgence ou Doctor House, ça fait plus penser en fait par rapport à Say Hello to Blackjack Blackjack justement de Osamu Tezuka. On est largement plus proche, comme je l'ai dit en chroniquant le premier tome, de La maladie de Saxe de Martin Winkler. Un médecin familial assez éloigné des premiers centres des médicaux d'urgence qui doit travailler sur la confiance des familles, une confiance qui se travaille longtemps, très longtemps, la bobologie mais aussi sur l'urgence avec les moyens de campagne, car à 6 heures de bateau du plus proche hôpital, votre médecin de famille a intérêt à être aussi un très 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 bon chirurgien. Takatoshi Yamada, Docteur Koto, le deuxième tome vient de sortir dans la collection Big Kana, chez Kana.
Non, mais il faut dire que dans le premier tome, ce qu'on découvre un petit peu dans cet univers, c'est vrai que il doit tout faire sur cette petite île qui est paumée au Japon, tu vois.
C'est une île de pêcheurs. C'est pas très loin d'ailleurs de la zone des pêcheuses de perles en apnée. C'est en fait plutôt à mi-chemin entre Taïwan et Kyushu.
Ouais, mais ce qu'il y a d'agréable, c'est le ton, c'est-à-dire qu'il y a un ton un petit peu légèrement caustique, sarcastique, ironique comme ça.
Et puis il y a le regard de Koto continuellement crevé.
Ouais, et d'autre part, dans l'histoire, il y a quand même des sujets assez graves et tout qui peuvent beaucoup prêter à réflexion. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est le mélange des genres là qui fait que c'est assez riche quand même, quoi. Et du coup, il me file les deux.
J'ai pensé.
Non, mais le 1, je le connais, j'ai déjà eu.
Hein. Un autre aspect de la quotidienneté, Yumino Chika Onei and Clover, ça vient de sortir. Punaise, c'est pas vrai, j'ai fait exprès ou quoi? C'est chez Kana. Et je crains bien que oui, d'ailleurs. Donc, Honey and Clover, le premier tome d'une nouvelle série. Qui n'a pas été étudiant ne peut connaître le bonheur d'une vie insouciante. À étudier comme un maboule, se beurrer le soir comme un petit lu, et trimer à côté dans un petit boulot, mal payé pour pouvoir boucler ses mois. Ah, ces merveilleux festins entre potes à base de pâtes ou de riz au beurre. Prenez un groupe d'étudiants aux Beaux-Arts, plutôt des beaux garçons qui sont à la recherche perpétuelle des quelques yens pour se payer un loyer, nos fournitures, transports et nourriture. Bref, pas franchement pour épanouir leur sens artistique. Jusqu'à l'arrivée de Hago, une petite fille, mignonne comme tout, qui tape instantanément dans l'œil des jeunes hommes dans l'histoire. Bon, alors si vous aimez les sitcoms AB, c'est votre problème. Là, on est dans un cadre qui touche personnellement les jeunes japonais. Le souci des étudiants pauvres, les bourses y sont quasi inexistantes. Obligés d'enchaîner Alberto sur Alberto, c'est-à-dire petit travail, hein, c'est une déformation du mot Albert allemand, pour pouvoir continuer leurs études. Mais comme c'est les plus belles années de sa vie, eh ben, on s'en contente. C'est sympa, c'est frais, la narration assez nerveuse pour les événements uniquement de la vie quotidienne. Et puis c'est assez rigolo. Umino Chika, Honey and Clover, le premier tome donc vient de sortir chez Kana. Toko Taketomi vient de sortir B-Sen, dans la collection Made in Shikana en France. C'est la suite de Hey Sen, où l'auteur raconte six petites histoires de la vie quotidienne, une plongée dans la vie des jeunes japonais, six rencontres, premiers émois amoureux, premières occasions manquées, premières déceptions, ou alors plus vraiment des premières fois déjà. Jusqu'à la dernière histoire, poignante, celle d'une fille qui ramasse le téléphone portable d'un passant tué en traversant une rue, juste avant d'entrer à l'hôpital où est son fils hospitalisé. Elle ramasse ce téléphone et à ce moment-là, le téléphone sonne. La vie n'est pas évidente, pleine d'interrogations et surtout pleine de contraintes artificielles dans un Japon où tout est codifié, tout est accéléré et tout doit aller au plus vite possible. On sent vraiment le culte de la réussite. On sent dans toutes ces personnes dont on croise au quotidien une envie furieuse de profiter un peu de liberté de vie qu'ils ont vraiment. Une BD de la quotidienneté, celle que l'on classe désormais sous l'étiquette Nouvelle Manga, Toko Taketomi, Be Seen, c'est dans la collection Made in Shikana. Midi 30 minutes et 15 secondes et la régie publicitaire de Radio FMR me fait signe. Bah oui, justement, on y va. Les pubs.
Du 6 au 13 avril, entre 16 et 17 heures, FMR reçoit les comités de soutien locaux aux candidats à la présidentielle. Avec le 6 avril, PS et Parti des travailleurs. Le 9 avril, FN et UDF. Le 10 avril, LCR et Vert. Et enfin le 11 avril, LO et Beauvétiste. Foin du MP qui ne souhaite pas débattre, du 6 au 13 avril, sur Radio FMR, entre 16 et 17 heures.
Et moi ?
Soirée reggae, mercredi 11 avril, au Havana Café. Queen Eye Freak, Gypsians, Turbulence. Sheldon Campbell, alias Turbulence. Anticyclonique, tête d'affiche. Orageux héritier de Sizzla, dont il a soi-disant le sens des affaires. Mieux vaut ça que l'inspiration des textes. à observer donc au Havana Café, mercredi 11 avril, les Gypsians, Queen Africa et Turbulence.
Le supplément week-end spécial Japon 2007 sur Radio FMR 89.1 MHz, c'est 12h32 minutes et 37 secondes. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite de joyeuses Pâques et une belle chasse aux yeux bridés. J'ai déjà fait en début d'émission, elle était nulle. Bon, ouais, ouais. C'est une BD dont le premier tome, quand il est arrivé en France, nous avait un peu marqué parce que c'était en octobre dernier, c'était exactement les 25 ans de l'abolition de la peine de mort. Donc pour nous, ça nous marquait un peu et on voulait vraiment en faire un symbole. Yoa Kotegawa, il s'agit de Détenu 042, le troisième tome vient de sortir, c'est dans la collection Big Kana. Sachant que 042, attends, ça se dit... Ogoichi, je crois, je sais plus, mais je sais que ça veut dire tueur, un truc comme ça. Coupable de 6 meurtres horribles sur un ring dans des combats clandestins, le détenu 042 a connu l'inhumanité totale des couloirs de la mort au Japon. Bon, alors si vous trouvez que les conditions des condamnés à mort ne sont pas humaines aux États-Unis, celles du Japon sont carrément dégradantes. Et d'ailleurs, le premier chapitre est assez choc là-dessus, puisqu'il est réel. Car si le personnage principal est appelé 042, et ben son matricule n'efface pas le fait qu'il a quand même eu une identité. Dans un programme expérimental de palliation à la peine de mort, on lui a implanté dans le crâne une bombe qui explosera à la moindre pensée trop forte. Il trouve un emploi de jardinier dans un lycée sous la surveillance d'une équipe de matons, médecins, expérimentateurs. Seulement, au fur et à mesure que l'expérience se prolonge, et ben l'identité et les sentiments de 042 reviennent à la surface, malgré une tentative de contrôle par destruction. La personnalité de Tajima Ryohei, le fait qu'il s'attache à l'une des lycéennes qui est aveugle, un autre handicap, mais physique celui-là, tandis que le sien concerne les sentiments. En fait, on se demande qui est le centre de cette expérience. Le condamné à mort, en sursis, ou ses expérimentateurs? S'il s'agit du condamné lui-même, ou finalement du système judiciaire japonais. Au début de ce troisième tome, c'est la mère du détenu qui manque de le revoir. Son fils chéri qu'elle n'a jamais revu. Plutôt qu'elle se demande pourquoi elle ne veut pas le revoir et lui se demande pourquoi elle ne veut pas le revoir. L'heure d'un autre pardon peut-être. Tout irait pour le mieux si un deuxième cobaye non pucé, celui-ci, serait lui aussi lâché dans le lycée, des traqués sexuels. Un ouvrage qui ne fait pas débat, n'ouvre même pas une réelle réflexion, contrairement à l'époque à Say Hello to Blackjack qui avait vraiment remis en cause la condition des internes en médecine. Mais pose au moins la question du pardon, de la réinsertion et de la rigidité de relations. Un sujet très sensible dans une société japonaise très traditionnaliste. Et là-dessus, je vous renvoie sur le mini-site de l'émission, sur nos précédentes chroniques, tome 1 et tome 2, où vous cherchez supplément week-end et détenu 042. Détenu 042, donc on en est au tome 3 de Yoa Kotegawa dans la collection Big Kana. Puisqu'on parlait de meurtre en série, justement, Bambi, tome 3, de Atsushi Kaneko, ça sort chez l'éditeur indépendant IMHO. Et Bambi est un cœur pur, une innocente, une fille qui pourrait céder à n'importe quel mode et devenir gentiment hystérique devant un beau garçon. Et là, cette gamine de 17 ans est une sacrée connasse qui se met dans des situations pas possibles qu'elle ne peut résoudre que à coups de flingue. En fait, elle a abandonné ses études, âge mental niveau collège, option tueuse à gage. Par exemple, elle a kidnappé un enfant auquel The King est très attaché. The King, c'est une espèce d'Elvis Presley qui fait fondre en larmes les midinettes qui d'ailleurs adore tabasser ses groupies, vierges, yakuza, trafiquants de drogue. Enfin bref, c'est pas franchement un individu fréquentable. Paru originellement dans la revue Comic Beam, Bambi, c'est un roi de movie explosif au graphisme des comics underground des 70s, à l'imagerie pop japonaise, au scénario d'un Tarantino sous Extra, ou alors d'un Takashi Miike sous caféine. Bref, C'est une BD qui explose les conventions du manga commercial. On a rencontré Atsushi Kaneko justement lors du dernier festival de la bande dessinée à Angoulême avec Thomas, et la traduction simultanée nous a été faite par Satoko Fujimoto sur invitation de IMHO Édition.
Atsushi Kaneko, bonjour. Vous êtes dessinateur de manga, mais vous êtes aussi réalisateur. On ne connaît pas vos œuvres filmées en France. Est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que c'est du direct vidéo?
France de mo ano jitsuwa Lampo no Waru という title de jōyō saireteru hazu nan desu keredomo. Edogawa Lampo という日本で有名なミステリー作家がいまして、その彼の原作で4人
の Normalement un de mes films est projeté en France, c'est titré Lampo Noir. Donc c'est une sorte de compilation de 4 réalisateurs qui travaillent sur le en adaptation de Edogawa Lampo, l'écrivain de science-fiction. Il est aussi écrivain des histoires détectives, mais aussi les histoires bizarres.
Dans Bambi, c'est une esthétique qui est proche de la pop et aussi des comics américains underground des années 70. Quelles sont ces inspirations graphiques?
Punk rock
J'aimais beaucoup le punk rock, donc j'avais plusieurs occasions de voir des pochettes, des flyers, des illustrations, et j'ai été influencé par des gens comme Robert Williams ou Co. de Loblo Art.
On pense tout de suite au film Tueur Né d'Oliver Stone, Too Much TV, en lisant Bambi. Quelles sont ses références en tant que dessinateur de bande dessinée et quelles sont ses références en tant que réalisateur de cinéma?
Les références pour le manga et le film, ça vient de peut-être de la même chose. Je m'intéresse à la structure originelle et des histoires que personne n'a encore fait.
Est-ce qu'il se sent plus libre, moins bloqué en tant que dessinateur ou en tant que réalisateur?
Si on parle de la liberté dans les dessins, je suis tout à fait libre parce que personne ne peut m'embêter. Par contre, dans le film, il faut travailler en équipe, donc on en perd un peu de liberté.
Étonnamment, ces cadrages qu'il utilise pour sa bande dessinée ne font pas du tout appel à des cadrages cinéma, ils sont beaucoup plus libres en fait.
C'est vrai que dans Bambi, je voulais faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le film. Donc j'ai essayé de faire des cadrages impossibles à réaliser dans le film.
Est-ce que tu pourrais décrire la revue dans laquelle est sorti Bambi pour nous expliquer un peu dans quel cadre à peu près la bande dessinée sort et qui c'est qui le lit?
Comic Beam est une revue. メインストリームからちょっと離れたところにあるんですけど、
le magazine s'appelle Comic Beans et qui se situe à côté de à part de mainstream, mais qui ne met pas en avant le côté alternatif non plus, qui a une ambiance plutôt libre et un peu bête, mais bêtise positive. Les lecteurs de ce magazine, ce sont des gens qui aiment les mangas étranges, mais en fait, dans ce magazine, mes mangas n'ont pas beaucoup de succès.
Bambi a un esprit très underground, qui dit underground dit sexe et violence. Curieusement, dans Bambi, on n'a que de la violence, pratiquement, et pas beaucoup de sexe.
そうですね、割と後半出てくる殺し屋で女の殺し屋の3人組が出てくるんですけど、彼らは本当にビザールな存在で、SM プレイのようにして殺人を犯す。
Vers la fin de l'histoire de Bambi, il y a 3 tueuses qui sont complètement dans SM. Et par contre, Bambi elle-même, c'est un être pur dans un monde sale. Donc c'est pourquoi les gens ne doivent pas sentir le côté sexe par la Bambie.
Ils préfèrent la Bambie, celle qui a un flingue, ou celle qui regarde les émissions pour enfants?
J'aime les deux côtés de Bambi, mais je pense aussi que Bambi ne prend pas trop de plaisir en flinguant. Pour elle, il n'y a pas d'autre choix. C'est comme si elle chasse les moustiques.
Comment il fait pour concilier son travail de mangaka et de réalisateur? Est-ce qu'il fait des planches pendant les temps morts de ses productions, ou est-ce qu'il se consacre à un projet puis à un autre projet?
À la base, je me considère comme un auteur de manga. Et si j'ai commencé à filmer, c'est parce que j'étais un auteur de manga. Donc j'aimerais garder cette base, et si l'occasion se présente, je voudrais filmer.
On pense aussi au film d'animation. Est-ce qu'il est tenté par cette expérience-là?
Anime wa mattaku kyoumi wa nai desu.
Je suis allergique à l'animation japonaise, je ne m'intéresse pas du tout à ça.
Est-ce qu'il en est allergique? À cause justement du côté bloqué? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il aimerait plutôt travailler avec d'autres producteurs de dessins animés que des producteurs japonais?
La raison pour laquelle je déteste l'animation japonaise, c'est parce que c'est fait uniquement pour les amateurs, c'est un monde fermé, et tant que graphiquement et au niveau de jeu d'acteur aussi, ça me bloque parce que ça me semble grotesque. Si je peux rencontrer les gens qui travaillent dans l'animation et qui sont plus libres que ceux qui travaillent dans l'animation japonaise, j'aimerais bien collaborer avec eux.
On voudrait savoir quels sont ses prochains projets, les projets sur lesquels il travaille et ce qu'il aimerait développer par la suite.
Je m'occupe maintenant d'une série qui s'appelle Soil, qui est totalement différente de l'univers de Bambi. C'est un suspense et les dessins sont très différents. Et pour le film aussi, je prépare un long métrage.
Atsushi Kaneko, domo arigato.
Merci beaucoup.
Voilà, donc Atsushi Kaneko interviewé lors du dernier festival d'Angoulême, c'était en janvier dernier. Bambi, le tome 3 vient de sortir aux éditions IMHO. Et donc à propos de l'interview, la traduction simultanée a été assurée par Satoko Fujimoto. Je remercie beaucoup d'ailleurs aussi Fabrice Renaud qui nous ont aidés sur place pour les interviews et pour les traductions. À noter qu'après l'interview, hélas, après l'interview, ça on l'a regretté avec Thomas, on s'est dit non, on n'aurait pas posé les mêmes questions. Il nous a montré les planches de Soil. Et graphiquement, c'est à milieu de Bambi. C'est un dessinateur là-dessus, Kaneko, il nous a montré que c'était vraiment un dessinateur qui avait une palette de style graphique impressionnante. Quant au film à sketch Rampou Noir dont il a été question dans l'interview, il a été effectivement projeté en France, mais uniquement à Paris et d'ailleurs dans une ou deux salles et dans certains festivals, pas à Toulouse, hélas, d'où notre ignorance, et là-dessus, c'est un peu dommage. Et pour résumer rapidement, Bambi numéro 3, il y a toujours cette espèce d'Elvis Presley complètement obèse, drogué et violent, The King, qui veut toujours essayer de massacrer Bambi parce qu'elle lui a kidnappé son gamin. Et il lui a envoyé un tueur à gages qui est une espèce de lutteur de catch mexicain avec son masque, qui est devenu immortel en devenant une espèce de cyborg. C'est complètement grave, déjanté et tout ce que vous voulez. Et je suis obligé de faire un hommage quand même à The King avec The Majesty of Rock, Spinal Tap. Et ce sera la transition avec la suite du supplément week-end. C'est pas fini! There's a pulse in the newborn sun.
It Goes to 11. It Goes to 11.
Énorme. Et ça, c'est le morceau de la tournée de reformation du groupe qui avait déjà splitté deux fois. Je crois qu'il y en a. Je crois que la première fois, c'était à cause du batteur qui avait explosé. Non, c'était à cause de différence de vue entre le guitariste et le chanteur, je crois, non ? C'était ça ?
Ouais.
Ouais, ouais. La deuxième fois, c'est parce que le batteur avait explosé une fois de trop, et puis je ne sais plus. On va y venir, hein, Spinal Tap. En attendant, du sport, pourquoi on en parle ?
Extrême cinéma.
Grand Dieu, mais on n'a pas invité Professeur Thibault et Franck Lubé cette fois-ci ?
Ben non, mais...
Mais faut dire que c'est moi qui les ai interviewés jeudi dernier sur cette antenne.
Ah, ben voilà.
Dans les impromptus. Voilà, voilà, voilà. Ça m'a fait bizarre de revenir dans l'émission de Monique Blanquet d'ailleurs. Côté micro en plus.
Ok, un petit coup d'œil quand même sur la programmation vite fait là, avec tout d'abord le gros du festival, c'est-à-dire Frankenstein bien entendu. Hein.
Ah non, c'est plutôt Mondo. Hein,
Ouais, bon, mais pour moi c'est Frankenstein. Quoi.
Bon, bah ça a été l'ouverture hier effectivement avec le Frankenstein de James Whale, l'original.
Yes, yes, yes.
Remix foutu, je vais dire en ambiance par Mondo, par Mucho Bizarro.
Mucho Bizarro,
voilà,
ouais.
Je vais y arriver. Et avant ça, il y avait un film de Paul Pavio, Torticola contre Frank Iceberg. La créature était interprétée par Michel Piccoli, tout jeune.
Ouais.
Sorti du lycée. Coucou.
De l'école des astres.
Ouais, mais ça faisait bizarre.
Alors donc, il y aura également dans cette thématique Frankenstein, l'excellent Cher pour Frankenstein. Ça, c'est la semaine prochaine. Hein. Je crois que c'est mardi prochain, me semble-t-il, en fin d'après-midi. Réalisé par...
Non.
Non, 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 non.
Non, mais c'est
réalisé.
C'est jusqu'à dimanche prochain.
Ouais,
de toute
réalisé
façon.
Par Paul Morisset, qui depuis a réalisé plein d'autres films, dont plein de navets, Kickboxer 4, des trucs comme ça, enfin bon, n'importe quoi. Et qui était quand même un petit peu plus inspiré quand il a sorti ce film. Il y avait également une suite. Hein, c'était plus ou moins coproduit par Andy Warhol. Et c'était.
Cher pour Frankenstein, c'est samedi prochain à 20h45.
Voilà, c'était destiné donc faire passer un petit peu quoi le cinéma underground inspiré par Andy Warhol et bien entendu Morrissey et toute sa bande, et de faire passer justement un échelon un petit peu supérieur. Il y avait eu un autre film qui s'appelait Du sang pour Dracula, et la particularité de ces films, c'est qu'ils étaient tournés en relief. Il y a une version en relief, et donc moi à l'époque
avec
j'avais pu le voir
qui
avec
fait
les
mal
lunettes
aux yeux.
Les lunettes qui font mal aux yeux, mais il y a 2-3 scènes si tu veux quoi. Les lunettes servent pas grand chose dans le film, mais il y a 2-3 scènes vraiment, notamment une scène où ils sont en espèce de tunnel, et à un moment t'as des chauves-souris qui arrivent et t'as les chauves-souris qui passent partout à côté de toi. Enfin c'est pas mal. Faut dire que ça a été fait en 72 ou en 73, donc pour l'époque
donc,
c'était déjà pas mal quoi si tu veux.
Donc
quoi,
la techno était maîtrisée par rapport aux films des années 50.
Ouais ouais, mais bon, même les films des années 50 que j'ai vu moi, Créature du Lagon Noir en l'occurrence, plus un autre avec des martiens, je me rappelle pas lequel, mais c'était déjà pas mal, je veux dire, c'est une technologie qui bon, de temps en temps m'a fait plaisir, mais à voir uniquement en grande salle, parce que là c'est vraiment bien. Et à voir également pour la performance de Joe D'Alessandro dans le rôle principal, mais également du roi des vampires. C'est l'une des incarnations à l'écran dans le rôle du vampire, comme Vincent Price, comme toute cette bande, comme Christopher Lee, c'est Udo Kier, notre Udo Kier allemand. Bien entendu, non, il est autrichien, je crois d'ailleurs, quoi. Et qui est également dans ce film-là, avec également plein de nanas bien dévêtues et tout. Hein. C'est un film qui à l'époque était interdit au moins de 16 ans ou de 13 ans, me semble-t-il. Voilà. Sinon, il y a également au programme toute une thématique sur le cinéaste belge Jean-Paul Van Bell. Et il y a également une super curiosité que je vous invite à voir, c'est mercredi prochain, hein, c'est un film d'Eric von Stroheim, il en a réalisé je crois deux autres, celui-là n'a jamais été diffusé en fait en salle, hein, commercialement, et il a été coupé, il y a des parties qui ont disparu, enfin les producteurs ont foutu leur hola.
Voilà, pour les spécialistes, je donne la durée indiquée par la Cinémathèque, 110
ouais,
minutes.
110 hein, minutes, presque deux heures donc, hein, c'est un film en noir et blanc, bien entendu, muet. Avec des intercalaires, avec le texte. Les textes sont en français, mais c'est un des chefs-d'œuvre de Eric von Stroheim. Il n'a fait que peu de films, mais ce sont tous des chefs-d'œuvre. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est mercredi prochain, c'est un des clous du festival, à mon avis, hein, de toute façon.
Voilà, sachant qu'en fait, il y a une bonne partie de la programmation qui est autour des Mondo, ces documentaires qui sont l'ancêtre du TF1 et du M6 moderne, c'est-à-dire les documentaires faussement outrés et carrément tape à l'œil et complètement bidonnés. Denis Vincenti en est un très grand spécialiste, hein, avec Incroyable mais vrai, et je ne pars pas du reste. Et donc c'est des documentaires complètement délirants comme Shocking Asia ou pas mal de changements de sexe.
Ouais, ouais,
mais
c'était
et tout
également
ça.
Le moyen de montrer des choses interdites qui passaient pas à l'écran quand il s'agissait de fiction, et donc par le biais du documentaire on faisait vachement plus
documents interdits, Paris secret qui lui n'est pas trop bidonné. Hein.
On faisait accepter vachement plus des scènes osées, des scènes un peu trash, des scènes violentes.
Suède, Enfer et Paradis qui est narraté en plus je crois par un sociétaire à l'Académie française avec des idées totalement facho et rétrograde, et donc Spinal Tap qui est prévu jeudi prochain à 18h30, franchement si vous ne le connaissez pas, allez le voir, vous allez vous pisser dessus de rire. Et à noter que la bataille d'Alger, dont la dernière projection connue a été au Pentagone en 2004 à propos de l'Irak, ils ont fait une table ronde et ils sont projetés ce film là donc qui est pas franchement un mondo, c'est une
reconstitution historique, on va dire.
Voilà.
C'est un film à base de faits réels et tourné pratiquement à l'endroit. Quoi.
Oui, tout à fait. Une production italo-algérienne. C'est jeudi soir à 20h45 en salle 2. Donc, je crois qu'il y a relativement peu de place. 50
places. La particularité de ce film, hein, c'est que c'est un film fait par Gilles Pontecorvo, donc un Français. Mais ce film a été interdit. Il n'a jamais été diffusé en salle.
Hein,
ça fait que très peu d'années hein, qu'on peut voir ce film effectivement, j'allais dire en toute liberté. Non, mais en public, quoi. C'est ça qui est très important en fait. Ce film a longtemps été interdit parce que il était sorti pratiquement en même temps, juste après que ces fameux événements qu'il décrit. Alors, on passe à la suite. Alors, comme petit intermède, comme il est pratiquement presque une heure de l'après-midi, hein, j'ai décidé.
On parlait tout à l'heure d'indigeste, je me chambrais dessus, mais je me souviens qu'on a commencé nos émissions ensemble et il y a le troisième larron qui a failli venir, JB. Avec brouillon de culture,
où
on se faisait de la cuisine et on disait les plats qu'on faisait après les émissions, on commentait les plats qu'on décrivait, ce qu'on bricolait à l'antenne la semaine suivante. Donc voilà.
Alors, c'est tiré de La Cuisine des séries, donc hein, un bouquin que j'avais présenté il y a environ un mois, paru chez la collection à pas cher. Hein, bon, c'est des bouquins tout fins, hein, ça coûte que 2
voilà,
euros.
Voilà, c'est quand on peut donner le nom de la collection, okay. Bah, Librio. Voilà.
Voilà, avec plein de thématiques hein, dans cette collection. Et là, dans cette Cuisine des séries, je vous ai choisi un des emblèmes hein, de la série de science-fiction Star Trek, avec la véritable soupe Vulcan. Alors, la préparation dure 20 minutes, la cuisson 1 heure. Comme ustensile, il nous faut une cocotte, un mixeur, un économe. Et alors, pour 6 personnes, il faut 2 oignons, 100 grammes de beurre, 4 carottes, un pied de céleri, un cube de bouillon de volaille. Enfin bon, on peut le remplacer par un bouillon d'autre chose si vous voulez faire un truc végétarien. Sel, poivre et un petit pot de crème. Tout d'abord, on commence par éplucher les oignons. On les coupe en morceaux et on les mixe. Ensuite, on met 50 grammes de beurre à fondre dans la cocotte, puis on fait rissoler les oignons hachés jusqu'à qu'ils soient bien translucides, en prenant garde qu'ils ne brunissent pas. Ensuite, on épluche les carottes pendant ce temps-là et on les mixe et on les ajoute aux oignons avec le reste du beurre. On baisse le feu au minimum, on couvre, on laisse mijoter environ 30 minutes jusqu'à que la purée de carottes soit bien fondante. Ensuite, on nettoie et on effeuille les branches de céleri, puis on les mixe, on les ajoute dans la cocotte en mélangeant bien. On fait cuire encore environ 10 minutes, puis on prépare 1 litre de bouillon de volaille ou un bouillon d'autre chose et on le verse sur les légumes en sel, poivre, on laisse mijoter à nouveau encore 30 minutes. En fin de cuisson, on ajoute la crème en mélange, ou bien on peut servir la crème fraîche en accompagnement, par exemple avec des croûtons grillés, avec du gruyère râpé, sachant que ces deux ingrédients n'ont pas été validés par le capitaine Kirk. Il faut savoir que en version originale,
il a osé.
Ça s'appelle la soupe au plomek. En vulcain, hein, puisque c'est la soupe vulcaine, on dit le short plomek. D'accord. Et donc c'est un mets traditionnel hein, qui est préparé à base justement d'un légume qui s'appelle plomek. Donc
d'ailleurs il déterre le plomek et par le force de la pensée il le décapite et il le chauffe. En fait il faut 4 sages vulcains pour le chauffer simultanément.
Ok. Bon C'est faisable de toute façon.
C'est nul. Faisable, bah, oui, non, mais de toute façon, c'est sûrement très rigolo. Je crois qu'on va se le faire, en tout cas.
Si, ça a l'air pas mal, en fait, hein. C'est simple, ça a l'air pas mal, quoi. Avec le petit coup de céleri, là, pour rehausser un petit peu le goût, c'est pas mal, du tout, quoi. Sinon, on va parler de télé un petit peu avec quelques petites séries inédites qui vont débouler sur nos écrans la semaine prochaine. Et en particulier, une série qui va débouler mercredi prochain sur une chaîne dont on attendait vraiment plus grand chose depuis pas mal d'années, hein, qui se contentait de nous passer des rediffusions, heureusement encore dans l'ordre, parce que bon, il y a quand même un certain respect de la série
TF1,
sur cette chaîne.
C'est W9
Non, la série qui s'appelle justement Série Club, hein, spécialisée dans les séries, et qui nous diffuse inédite de très bon aloi. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une série de western qui s'appelle Into the West. Into the West, production Steven Spielberg, 25 nominations aux Emmy Awards, 9 Awards,
ouais.
Et ça le doit également à l'histoire, hein, l'histoire donc de la conquête de l'Ouest de 1827 jusqu'à 1897, en 6 parties. Alors Spielberg a choisi un format un peu plus long pour raconter son histoire par rapport au format habituel 42 minutes, 45 minutes.
Oui, il aime bien les 90 en général.
Là, c'est 90, 6 fois 90 minutes. Un casting en béton avec un guest starring, bon, bien entendu, en béton. L'histoire très simple, mais avec point de vue opposé, pas forcément opposé, mais point de vue différent des Américains d'origine et des arrivants, à savoir l'histoire de la famille. Enfin, les deux frères Jacob et Jethro Wheeler, interprétés par Matthew Settle, et Skeet Ulrich, et leur cousine Naomi Wheeler, qui est interprétée par Kerry Russell, d'un côté, hein, qui vont partir vers l'ouest, et de l'autre côté, ben, le point de vue des Indiens, avec Aimée des Bisons, interprétée par Simone Biker, et Cœur de Tonnerre, la fille qui est interprétée par Tonantin Carmelo, qui a d'ailleurs obtenu un award pour ce rôle. Et alors, le casting en béton, bien entendu, hein, c'est Tom Berenger, Keith Carradine, Lance Erickson, Derek DeLint, Poltergeist, George Aguilar, qui joue le rôle de Bigfoot dans la série, et qui en fait, à la ville, est le mari de Josiane Balasco. Tu vois, on fait même dans le voici, tu vois. Jonathan Scalf, Gary Buzet, Beau Bridges, rappelez-vous, Maximum Bob, Josh Brolin, le beau et ténébreux, et Matthew Modine, hein, qui a trouvé également de quoi se placer dans cette série, donc initiée par Steven Spielberg, Into the West, donc sur Série Club mercredi prochain. Alors, à raison d'un épisode de 90 minutes par semaine, hein, ça nous fait 6 semaines tranquille mercredi soir, hein, et la Ligue des Champions pourra peut-être se rhabiller mercredi prochain. Donc premier épisode.
Attention,
de
c'est
Into
du sport
the
qui
West,
dit ça.
Rué vers les étoiles. Sinon, il y a également de la nouveauté sur TPS Star vendredi prochain en prime time à 21h avec Studio 60. Alors, c'est regardable de prime abord. Pourquoi ? Parce que c'est écrit par un grand de l'écriture et de la conception des séries, Aaron Sorkin, qui nous avait sorti West Wing, à savoir La Maison Blanche.
Blanche,
donc,
c'est énorme.
Pas n'importe quoi. L'interprétation également avec la débauche d'un des anciens de West Wing, Bradley Whitford. Il y a également des ex, il y a Amanda Pitt, mais également le retour de Matthew Perry. Matthew Perry, c'est...
C'est le républicain dans West Wing.
Mais non, absolument
mais si.
Pas. Ah oui.
C'est le mec qui fait peur à toute l'équipe de l'aile ouest.
Mais Matthew Perry, c'est également Chandler dans Friends.
Ouais, bah bon.
Si, surtout. Et tu sais quel est le nom de famille de Chandler? Bing. Chandler Bing. Donc, on voit. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent quand même. Ça fait plaisir.
Mais je suis désolé, moi, je suis pas vraiment suivi.
Pourtant, c'est facile. Donc, ça s'appelle Studio 60. Et en fait, ça raconte les dessous d'une émission de télé sur une chaîne américaine, genre gros network, genre NBC, Fox, tout ce que tu veux. Une émission style Saturday Night Live, mais en perte d'audience, Saturday Night Live, les shows
les late shows. Voilà.
Et donc.
With Conan O'Brien.
Voilà, c'est
J'suis
ça,
fan.
Quoi. Et OJ Leno, toute la bande. Ça raconte l'histoire, eh bien, de l'avenue de, de sang nouveau, quoi, justement, dans l'équipe, pour essayer de redynamiser cette émission avec des guest stars, c'est-à-dire des gens qui jouent leur propre rôle. Felicity Huffman, de Desperate Housewives, il y a Sting également, John Carpenter dans le pilote.
Oh, putain,
ouais, bah, voilà, tout simplement. Alors, ça fait penser. Bon, en général,
quand il y a un prix Nobel dans ce genre d'émission qui est invité, il est à côté d'un acrobate et d'une fille qui arrive à sortir les yeux de ses orbites. Donc, vous voyez le genre.
Alors, ça fait penser un petit peu. Il n'y a pas eu beaucoup de séries qui ont déjà abordé un petit peu ce thème-là. Il y a Murphy Brown, Les Dessous de la télé, quoi. Il y a eu À la Une, mais il y a eu surtout le Larry Sanders Show qui était absolument magnifique, qui était une caricature, enfin pas une caricature, mais une satire très très intelligente de justement de ces late shows et en particulier de David Letterman, à tel point que dans la saison 2 ou 3, il y a Dave Letterman qui fait plusieurs apparitions dans ce Larry Sanders Show, interprété génialement par le comique Gary Shandling, qui est pas du tout connu comme comique, mais ici en Europe, mais aux États-Unis, c'est un grand comique reconnu qui a plusieurs fois présenté les Oscars. Enfin bon, bref, c'est pas n'importe qui, c'est l'égal presque d'un Billy Crystal, tu vois, aux États-Unis, quoi. Donc c'est Studio 60, c'est vendredi prochain.
Ça a pas beaucoup marché aux États-Unis. Je crois qu'ils se sont plantés. Il y a eu qu'une demi-saison de produite. Hein. Je ne veux pas dire bêtises.
De Larry Sanders.
Studio 60.
Studio 60. Ouais, par contre, ça s'est cassé la gueule assez lamentablement, de toute façon, parce que bon, bah c'était quand même, ça se voulait.
Parce qu'il y a pas mal, de gens qui ont dit que c'était trop haut de gamme.
Voilà, c'est ça. Ça se veut haut de gamme quand même au départ, et c'est peut-être ce qui a un petit peu plombé, quoi, justement.
Parce que West Wing, c'était tous ceux qui s'intéressaient à la politique et regardaient ça, tandis que, ben, justement, ceux qui s'intéressent à ce genre de show, ben, c'est du divertissement, je veux dire, nulle part ailleurs, et extrêmement intello à côté, quoi. Donc, c'est un peu du lagaffe, voilà. Voilà.
Encore de l'inédit, mais ça, c'est peut-être plus anecdotique. Quoique, on sait jamais, on peut dénicher quelques perles de temps en temps. Ça nous vient du Canada. Et ce sera diffusé par France 4 mardi prochain en deuxième partie de soirée à 22h15. Quoi, j'ai pas repéré de signalétique, moins 10. J'ai pas fait gaffe. Ça s'appelle Godiva. Et en fait, ça raconte les débuts d'une nouvelle directrice d'un resto branché de Vancouver. Et qui va un petit peu assaisonner l'ambiance et la réception dans ce resto branché par un petit peu de coke, du cul t'en as, enfin bon, des petites choses comme ça, quoi. Bon, ça peut être plaisant comme ça, quoi, au menu, bah on jugera sur pièce en tout cas. À partir de mardi prochain, France 4, 22h15, Godivas, donc. Du côté des séries diffusées actuellement, la rediff quand même de Wanted. Dans la catégorie bien bourrin, et c'est la dernière de Aaron Spelling, rien que pour ça, avec Gary Cole, avec Lily Tergesen, l'histoire des chasseurs de primes, là, on en a abondamment parlé dans cette émission, mais ça revient comme ça, ça fait toujours plaisir, c'est sur M6 à partir de 22h40, je crois que c'est la première diffusion sur une chaîne en hertzienne en clair, me semble-t-il, quoi, avant c'était les chaînes câblées plutôt, quoi, ou satellite, je crois que c'était TNT c'était W9 qui diffusait ça avant, quoi, donc c'était quand même la TNT. En tout cas, c'est agréable à regarder. Enfin, moi, j'aime bien pour ceux qui aiment le style bourrin, bagnole, gros flingue, enfin tout ça, fusillade, baston. Là, c'est pas mal, c'est bien foutu, c'est rigolo, puis un petit humour comme ça sous-jacent. C'est assez rigolo. Enfin bon, c'est plein de testostérone. Vous en faites pas, c'est du garanti bien. Il manque que Vin Diesel, quoi. Ben, enfin bon, ça s'appelle donc Wanted. C'est jeudi prochain sur M6 à partir de 22h40. Bon, c'est normal que ça diffuse un peu tard parce que bon, c'est quand même assez violent, quoi, par moment. Lundi prochain, c'est le final de la saison 4 de Nip Tuck. Le final avec.
T'as oublié le final quand même hier, avant-hier de Alias.
Tu m'en veux là. T'as décidé de m'en vouloir.
Non, 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 je l'ai enregistré, non, je le verrai tranquillement.
Je parle de Nip Tuck là, quand même, final de cette magnifique saison 4, donc, qui relance un petit peu la machine, à mon avis. Qui laisse augurer une saison 5 absolument magnifique, avec peut-être Madonna d'ailleurs. On en parle en ce moment. Avec donc lundi, diffusion des deux derniers épisodes, À chacun son marionnette, qu'on a déjà vu. Et Inséparable, donc le final de la saison 4, avec le retour de Roberto Lazzardo. C'est le mec tatoué dans la saison 1, là, le Mexicain là. Et il revient, il est encore là. Donc dans cet épisode qui s'appelle Inséparable, diffusé lundi prochain sur Paris Première, vers aux alentours de 23h30. 22h30, 23h25, Niptok. Donc, pour terminer, ma petite thématique que j'aime bien là, hein, que je vais développer de temps en temps, comme ça, des soirées spéciales. Alors en plus c'est le week-end de Pâques et tout, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre. Il y a des petites soirées spéciales qui sont sympas quand même, bon, dans tous les genres. Ce soir, par exemple, sur Série Club, une soirée spéciale les bœufs carottes.
Ah ouais.
Ah ouais. Série française initiée en 4 à partir de 97, donc l'histoire, bon, bah, des l'IGS en fait, hein, ça s'appelle IGS maintenant. Hein.
Ouais, bah, non, carottes, c'est toujours, c'est, ça carottes, c'est toujours
surnom,
appelé.
C'est le surnom que les flics appliquent à ceux qui sont chargés d'enquêter sur les flics.
Inspection générale des services.
Voilà, voilà, voilà. Avec donc diffusion de deux épisodes ce soir à 20h50. Tout d'abord, La Manière Forte. Alors c'est des téléfilms, hein, 1h30, 1h40, réalisé par Michel Ganet, avec dans les rôles titre Jean Rochefort bien entendu et Philippe Carrois. Et il y a également dans cet épisode, enfin dans cet épisode, dans ce téléfilm La Manière Forte, Manu Gélin et Thomas Sisley. Ouais. Et l'épisode pilote qui est diffusé à la suite de La Manière Forte, Les Enfants d'abord, avec réalisé par Denis Hamard. Donc ce soir sur Série Club. Et ce soir sur Série Club, vous avez également une soirée spéciale Les Simpsons. De 20h45 à 23h20, que des épisodes des Simpsons qui ont été choisis par les internautes et par les fans de la série, qui ont voté sur le net pour élire parmi les 25 épisodes proposés ceux qui seront diffusés ce soir sur W9 à partir de 20h45 jusqu'à 23h20. Que des épisodes des Simpsons. Sinon, demain soir, il y a une soirée qui va te faire beaucoup plaisir, mais il va falloir que tu aies la chaîne. Ça va être peut-être plus compliqué. C'est une spéciale Bollywood.
Wow, oh mince, bam, bam. Tu pouvais prévenir.
Ah ouais, vas-y, vas-y, t'as le temps de le mettre, parce que le premier film, je pense que tu l'as déjà vu, c'est un classique, et ce n'est pas vraiment un Bollywood, c'est un mariage en fait. L'exploitation qu'en a fait justement ben, le cinéma américain, Hollywood en l'occurrence, plus les Anglais, parce que les Anglais sont quand même une tête de pont intéressante, on va dire, et historique, avec
bah,
l'Inde.
Tu m'étonnes, avec tous les paquis qu'ils ont aussi.
Ouais, non, mais bon, faut pas déconner, il y a, hein, y a du passif quand même, quoi. Et ça s'appelle Coup de foudre à Bollywood. C'est un film qui a eu pas mal de succès, hein. C'est pas un film indien, film américano-anglais, hein, donc, et qui réunit, ben, on va dire, plus ou moins le gratin du genre, hein, avec dans le rôle principal Aishwarya, ah là là, ah là là, Aishwarya, qu'elle est belle, elle est magnifique, magnifique, et de toute façon, et c'est une des plus grandes stars, c'est une énorme star, de toute façon, en Inde, et ça commence à être une énorme star internationale, on commence à la voir dans les pubs de parfums, de je sais pas quoi, enfin bon, on y voit également Navin Andrews, tu sais, l'Irakien, là, dans Lost, qui joue également dans Coup de foudre à Bollywood, qui est un petit peu la transposition de Orgueil et Préjugés, l'histoire de quelqu'un qui rentre dans la vie amoureuse d'une femme et tout, enfin bon, bref, c'est pas mal, c'est adapté, on va dire Bollywood. Il y a toujours les fameuses chorégraphies, tout ça, enfin bon, ça chante beaucoup, ça danse beaucoup, ça c'est clair, y a pas de problème, mais la durée est moindre, hein, on se fait moins chier que sur un 3 heures habituel, hein, que dure un Bollywood classique. Ça dure 1h50, l'histoire est quand même relativement intéressante, il y a pas mal d'humour, hein, c'est bien foutu, et comme c'est diffusé en version masterisée, donc il vaut mieux se taper la version originale. De toute façon, c'est vachement mieux. C'est à 20h45, donc demain soir, et c'est suivi là par un vrai Bollywood de la même année, 2004, qui s'appelle Verzara de Yash Chopra, avec Shah Rukh Khan et Preeti Zinta, là qui fait 3h15, et là je t'assure, t'as intérêt à prévoir les
préparer le curry.
Le curry. C'est diffusé en version originale à partir de 22h35 demain soir. Donc, si vous êtes un petit peu plus pervers, enfin. Pervers, mais
c'est
différemment.
C'est sur quelle chaîne, pardon, tu as
Ciné, cinéma, émotion.
Oh, mais.
Aïe, 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 aïe. Donc, ce spécial Bollywood. Par contre, c'est une chaîne que t'as peut-être, et là, ce sera peut-être plus dans tes possibilités et dans tes goûts. Un spécial Jean Rollin. Jean Rollin est,
non!
Français.
Non!
Qui a comme équivalent espagnol ibérique un certain Jesus Franco, Franco, voilà.
Oui,
l'exploitation de la même thématique, on va dire.
Ouais, non, mais j'ai commencé à les regarder, stop.
Avec demain soir, donc, deux films de Jean Rollin sur CinéFX à 21h. Tout d'abord, La Morte Vivante de 82 avec Marina Pierrot et Françoise Blanchard. Et comme il fait une fixette sur beaucoup de choses, cet homme, c'est également sur le prénom de ses actrices.
C'est très simple. Et des vampires, des filles qui se déshabillent et un budget,
Non, non, pas du tout. Là, La Morte Vivante, c'est l'histoire d'une châtelaine qui est décédée, mais qui revient parce que il y a eu des, y a eu des substances atomiques, des substances radioactives qui ont endommagé son cercueil, et donc elle revient pour hanter les gens qui habitent son château, tu vois. C'est tout con, mais c'est comme ça. Avec Françoise Blanchard, donc, et donc je disais, il faisait une fixette sur même sur le prénom de ses actrices.
Ça fait une semaine que je cherche le nom de la boîte de prod. Eurociné.
Donc le deuxième film, il y a également l'actrice principale qui s'appelle Françoise, mais Pascal, dans La Rose de Fer, un film encore plus vieux de Jean Rollin qui date de 73. À noter que le premier est en signalétique moins 12. Lundi, spécial Pâques, génial, sur Ciné Cinéma Premier, on te propose un spécial La Passion du Christ. Avec tout d'abord à 20h45 La Passion du Christ de Mel Gibson.
D'accord. Allez.
Moi personnellement, j'ai vu que la dernière demi-heure.
Sacrifice Pascal.
À tomber à la renverse. Tellement c'est cru, tellement c'est beau. Enfin bon, il y a de tout là-dedans, quoi. Tu vois, c'est bon. Sans rentrer dans une thématique quelconque, quoi, à propos de les juifs, pas les juifs. Non. La beauté pure des images, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, quoi.
Le choc des photos.
De Mel Gibson, enfin, en tout cas dans le final. Suivi de, à 22h50, d'une autre passion, mais l'autre, La Dernière Tentation du Christ de Scorsese, hein, de 88. Avec le casting béton, mais le film il n'est pas béton du tout. Hein,
et dire qu'à l'époque il y a eu des bombes posées dans des cinémas en France.
Mais à chaque fois, de toute façon, William Dafoe, Harry Dean Stanton, Barbara Hershey, Harvey Keitel, David Bowie, mais enfin bon, bof quoi. Et c'est suivi parce que c'est la Passion du Christ de Mel Gibson est relativement court. La Dernière Tentation du Christ en plus est hyper long, quoi, tu vois. Et donc faut patienter jusqu'à 1h30 pour se taper peut-être ce qui peut être le clou de la soirée, à savoir un documentaire qui s'appelle The Passion, Films, Faith and Fury, un documentaire de Robert Beckford, donc à propos des films qui ont traité justement du Christ et de la Passion du Christ. Il y a marqué tourne, donc je tourne la page. J'arrive à lundi avec là quelque chose qui va te plaire et qui va plaire également à Thomas, un spécial Ronnie You sur la chaîne Action, avec à 20h40 Magic Warriors de 98 avec Angus McFadden et Mario Yedidia. Ça c'est plutôt une histoire, on va dire, un conte pour les enfants, quoi, parce que bon bah ça met en scène comme personnage principal un enfant qui se trouve transposé dans un monde merveilleux et magique, hein. Bon, le coup classique. Le suivant est plus intéressant quand même, quoique c'est pas un chef-d'œuvre non plus, à 22h20 de Ronnie Yu, c'est Jiang Hu de 93 avec Leslie Cheung et Brigitte Lin entre autres. Ça se laisse regarder quand même, c'est lundi donc sur la chaîne Action. Mardi, un spécial, là je commence dans le classique, dans le grand classique, avec je termine par du classique d'ailleurs, avec mardi un spécial Ruben Mamoulian. Ça ferait bien dans un extrême cinéma, ou dans un classique sur une cinémathèque, tu vois, tranquille classique. Ruben Mamoulian sur TCM mardi prochain avec deux joyaux. Tout d'abord, le premier, c'est un grand classique qui a déjà été multidiffusé même sur nos chaînes, hein, c'est La Belle de Moscou de 57 avec la meilleure, la plus belle, l'incomparable Sid Charisse, hein, les plus belles jambes du monde, et qui savait danser en plus, quoi. Mieux que Ginger Rogers, c'est que toutes les autres, de toute façon. Sid Charisse avec Fred Astaire, hein, qui est quand même à côté d'elle, et Peter Lorre dans ce film La Belle de Moscou qui date de 57. Suivi d'un autre Ruben Mamoulian moins connu, mais bon, c'est une des variations du genre, hein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde version de 31 avec Frédéric March, impeccable, et Myriam Hopkins. Jeudi, parce que mercredi il y a Into the West, donc il peut pas y avoir de soirée spéciale de toute façon. Jeudi donc, et il y a également, si ça vous intéresse pas le western à la télé, il y a également, je le rappelle, donc à la Cinémathèque, diffusion du Eric von Stroheim, hein, à ne pas louper.
À partir de 20h30.
Jeudi, alors là, c'est vraiment plus un documentaire ethnologique que je vous propose avec ce spécial Martine Carole sur cinéma classique à 20h45. Caroline Cherry, le film de le grand classique de l'année 50 de Richard Poltier avec Martine Carole dans le rôle titre. Suivi à 23h de Un caprice de Caroline Cherry. Le film de 52 de Jean Devesme avec Jean-Claude Pascal, le beau et ténébreux Jean-Claude Pascal. Et suivi à 0h45 de Nathalie, le film de 57 de Christian Jacques. Et Christian Jacques qui, pour la petite histoire, est devenu le mari de Martine Carole. Martine Carole, grande, c'est l'égérie dans les années 60. C'est elle qui se fait détrôner par Bardot et par Michel Mercier à la fin des années 50. Mais sinon, du début des années 50 jusqu'à la fin des années 50, l'égérie, la blonde platine, la blonde explosive, la nana préférée des Français, c'est Martine Carole, mon gars. Tu vois, alors donc c'est pour un petit peu revenir un petit peu très très loin dans notre histoire. Ouais, c'est vachement loin quand même. Que je vous propose ce spécial Martine Carole jeudi prochain sur Ciné-Cinéma Classique. Et je termine par une bonne tranche de bonne rigolade vendredi prochain sur Sci-Fi avec un spécial Terry Gilliam et deux gros classiques. Ça fait toujours plaisir à revoir. Tout d'abord, Brasil à 20h50 de 84, mais c'est suivi à 23h10 par un monument de poilade incroyable, par un des meilleurs rôles de Sean Connery, de David Warner. Je veux parler de Bandit de 81, absolument gigantesque, de toute façon, quoi. Que moi, je préfère personnellement à Brasil, mais enfin bon, c'est pour d'autres raisons. Et il y a également, pour faire plaisir à Thomas, de John Carpenter cette semaine, diffusé à la télé, tout d'abord demain soir, sur RTL9 à 22h25. Le village des damnés, le film de 95 avec Christopher Reeves, Christy Allais, Marc Hamill. Et mardi prochain sur France 2 à 23h25. Après la soirée Le Sacre de l'Homme, dans la série, tu sais, la série instillée par Jacques Malaterre, Yves Coppens, il avait fait L'Odyssée d'espèces, puis il avait fait Homo Sapiens. Et mardi prochain, donc sur France 2 en prime time, il y a Le Sacre de l'Homme, donc... où l'Homo sapiens devint vraiment un homme, il commence à coloniser,
il crée des civilisations, tout le bordel et tout,
sur France 2. Et après cela, 23h25, eh bien, on propose un grand classique de Carpenter, Christine, de 83. Ouais. Hey, un spécial dédicace.
Salut Christine!
Avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky et Harry Dean Stanton. Et voilà, c'est tout. Ah bah non, je voulais vous parler également vite fait, bon, on a le temps de toute façon, du numéro, je sais pas combien, de SoFoot, le numéro d'avril de SoFoot qui fait comme, c'est pratiquement la même couverture que l'équipe magazine de la semaine dernière, pour qui voter, hein, avec le petit sondage, pour qui votent les joueurs de Ligue 1, alors bon c'est un peu bidon, mais par contre il y a les interviews des différents candidats, hein, qui ont bien
pardon,
voulu
mais tu es sûr
répondre.
Qu'il y a tu es sûr qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui ont le droit de vote?
Laisse tomber. Tu serais surpris des chiffres. Enfin bon, les chiffres, on
non,
peut
je
leur
déconne,
faire dire
je déconne.
Ce qu'on veut aussi, quoi. Mais donc il y a les interviews, hein, de SoFoot aux différents candidats. Sego, Bayrou, Sarko. Il y a Le Pen qui a pas voulu répondre. Alors bon, ils ont quand même fait un truc dessus, quoi. Mais bon, c'est assez rigolo. C'est pas mal. C'est bien foutu. Hein. Ça prouve que bon, c'est quand même des gens qui sont un petit peu sérieux et qui savent de quoi. Il parle, il y a également tout un dossier très intéressant sur le COP de Boulogne, hein, ce fameux COP de Boulogne qui...
parole à l'extrême droite, quoi.
Il y a également dans l'historique du club, un historique sur Charlton Athletic, un club anglais, bah ouais, quand même, de temps en temps, pas que des clubs sud-américains et d'ailleurs, ou du sud, également un petit peu des clubs du nord, ça fait plaisir. Tout ça, c'est dans le numéro SoFoot d'avril, voilà. Et sinon, si vous achetez le Libé d'aujourd'hui, eh bien, dans la dernière page, tu sais, c'est un portrait, quoi, la dernière page. Et le portrait d'aujourd'hui, je vous conseille de le lire, c'est consacré à quelqu'un qu'on connaît bien, hein, dans le monde des séries. Il s'agit de Christine City. Héloïse Rome, ça te dit quelque chose? Eh bien, elle raconte dans ce petit portrait que, eh bien, son passage après post-Héloïse Rome, hein, où elle est passée de blonde un petit peu plantureuse comme ça, bien en chair, enfin bon, appétissante quand même, hein, faut dire ce qui est, à brune un petit peu plus maigre, et puis bon, ça lui a valu 2 ans, hein, au placard, sans boulot et tout, déprime, enfin tout le bordel, quoi. Comme quoi, c'est pas évident non plus d'être héroïne de série télé française de vouloir changer, de vouloir passer à autre chose. Enfin bon, c'est assez intéressant. De toute façon, c'est dans le dernier numéro, enfin dans le numéro de Libé d'aujourd'hui, dans le portrait de dernière page, voilà. Et je vais passer de l'autre côté, et puis comme ça, on va parler un petit peu de sport, hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah moi je dis, dans ce cas il faut que je lance Omnitrio. C'était le supplément week-end du 7 avril 2007, une thématique spéciale Japon. Si vous avez manqué le début, sachez donc que l'on a parlé de bande dessinée japonaise en France, que l'on a eu en interview Keiko Ichiguchi, traduction simultanée par Fabrice Renaud, et Atsushi Kaneko, une traduction simultanée de Satoko Fujimoto. que l'on a parlé bien évidemment de pas mal de mangas, qu'on a aussi donné une partie du programme de Extreme Cinéma qui a commencé hier et qui est jusqu'au 15 au Cinémathèque de Toulouse. Que si vous voulez en savoir plus sur le manga, et ben que le samedi 12 mai il y a une table ronde qui aura lieu à la médiathèque José Cabanis. Que on recevra prochainement des organisateurs de festivals de bande dessinée, puisqu'il y aura bientôt un festival BD auquel FMR est associé à Toulouse. Il s'agit de Bulles d'Ombre, dont c'est la seconde édition. Ça aura lieu les 27 et 28 avril prochains. Et que, en attendant, si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la réécouter sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net, ou sinon vous cherchez dans Google, Yahoo, MSN et tout le reste, et vous cherchez Supplément Week-end FMR. Et vous rajoutez MP3 aussi, ça aide un peu, puisque dans ce cas vous pouvez vous écouter et vous abonner en podcast. Ça c'est génial, c'est la technique. La suite des programmes sur Radio FMR, avec à 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Hour, 20h Hétéro Expérience, 21h39 Love. La Hétéro Expérience d'ailleurs c'est une émission préenregistrée, puisqu'ils sont en ce moment au festival Garou Rock, et où vous suivez régulièrement les directs sur l'antenne de Radio FMR. De suite c'est du sport, je cède ma place, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne. Pour des émissions, on a fini notre lot de spécial, donc Thomas sera revenu de son week-end de décompressage. C'est la fin des spéciales et on va être, dans une programmation un peu plus neutre et un peu plus équilibrée en point de vue temps de parole. Et évidemment, campagne oblige. Voilà, c'était Supplément Week-end sur Radio FMR. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye.
C'est toujours Radio FMR.